Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, notre invité est Ibrahim Hassan Mayaki, le secrétaire exécutif de l'Agence de coordination et de planification du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, un partenariat adopté il y a 15 ans déjà. Ibrahim Hassan Mayaki qui revient sur la Semaine de l'Afrique, organisée comme chaque année à la mi-octobre au siège de l'ONU à New York. Ibrahim Hassan Mayaki, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le secrétaire exécutif de l'Agence de coordination et de planification du NEPAD. Le NEPAD, on le rappelle, c'est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Alors d'abord, cette semaine de l'Afrique qui se déroule du 10 au 14 octobre, donc notamment ici à New York. Pourquoi c'est si important pour l'Afrique et pour le NEPAD ?
Comme vous le savez, le NEPAD fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et historiquement, cette résolution avait pour objectif et a toujours pour objectif de faciliter la mise en œuvre de projets régionaux, de mécanismes d'amélioration de la gouvernance, de promotion des investissements sur le continent. Ça date de la conférence internationale sur le financement de Monterrey. Alors, pourquoi est-ce important pour nous d'être présents ? Premièrement, parce que ça permet de créer un débat sur les conditions actuelles de développement de l'Afrique qui ne sont pas celles qui existaient lorsque le NEPAD a été créé en 2001. Deuxièmement, ça permet de voir quels sont les progrès qui ont été accomplis dans la mise en œuvre de nos différents plans de développement. Et puis, troisièmement, ça permet d'aborder des sujets d'actualité. Les sujets d'actualité aujourd'hui, c'est l'agenda 2030, sur les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui sont complémentaires d'ailleurs. Et le NEPAD, dans cette configuration, est une agence d'exécution de l'Union africaine pour la mise en œuvre de ces agendas. Alors, lorsque le Conseil spécial pour l'Afrique, l'ambassadeur Majid et son équipe organisent traditionnellement cette semaine sur l'Afrique, nous devons y être pour participer à ce débat et apporter nos points de vue.
Concrètement, on parle de 2001, donc ça fait 15 ans que le NEPAD a été lancé, a commencé à être mis en œuvre. Quelles sont les réalisations dont vous pouvez justement vous enorgueillir ? Quels sont les résultats déjà concrets que vous avez pu mettre en place donc, à travers ces différents partenariats ?
Il y a deux temps dans l'existence du NEPAD. Le premier temps, c'est de 2001 à 2010, où en tant que secrétariat du programme du NEPAD ont été développés des cadres stratégiques continentaux en agriculture, en infrastructure, en nutrition, en tourisme, etc. Et le deuxième temps, c'est le temps de la transformation de ce secrétariat en agence de développement de l'Union africaine. On a continué à utiliser le nom du NEPAD parce que les fondements de nos activités sont liés au programme du NEPAD. Mais en même temps, on a connu un élargissement de notre mandat en devenant agence de développement de l'Union africaine. Ce qui fait que si dans la première phase, on était focalisé sur le développement de stratégies, dans la deuxième phase, on est focalisé sur la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 50 pays africains aujourd'hui ont des plans nationaux d'investissement agricole qui ont été développés grâce au NEPAD, qui a apporté une expertise dans chacun de ces pays et qui a apporté cette expertise aussi dans les commissions économiques, communautés économiques régionales, en Afrique de l'Est, du Centre, du Sud, Austral, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, ça veut dire le développement de mécanismes concrets qui peuvent permettre d'attirer l'agribusiness dans ces plans nationaux d'investissement agricole. Ça aussi, c'est grâce au NEPAD que ça a été fait. Si je prends le cas des infrastructures, on a aujourd'hui 16 projets concrets d'infrastructures, dont deux tiers ont trait à l'énergie et qui sont transnationaux. Et dans la mise en œuvre de ces projets, là aussi, on apporte une expertise technique au pays que les projets traversent, si c'est une route ou bien un chemin de fer, et on aide à mobiliser des financements. Et en faisant ça, on renforce aussi les capacités des communautés économiques régionales qui gèrent ces projets à la fin. Donc on est une entité qui, sur la base de projets concrets, amène de la capacité au niveau régional et au niveau national, ce qui est véritablement le rôle d'une agence de développement. Mais je pourrais aussi parler de la nutrition. Nous avons aidé à former plus de 1000 fonctionnaires publics pour la prise en compte de la nutrition dans tous les plans de développement. Je pourrais parler aussi de la gestion durable des terres. Nous avons 37 plans nationaux de gestion durable des terres que nous avons aidé à mettre en œuvre et pour lesquels nous cherchons à mobiliser des financements. Je pourrais parler de notre fonds pour le changement climatique qui vise à renforcer les capacités d'adaptation au niveau national en octroyant des ressources et de la capacité au niveau local pour les petits exploitants en agriculture. Donc on a un champ d'activité qui est large, mais focalisé fondamentalement sur la recherche de résultats et d'impact.
Alors justement, ce matin, en parlant un peu en introduction de cette fameuse semaine de l'Afrique, donc qui, je le rappelle, a lieu donc du 10 au 14 octobre, vous avez parlé notamment de partenariats intelligents. Donc par rapport à cette agence donc, de développement de l'Union africaine qui aujourd'hui a pris corps et après la transformation que vous avez décrite, comment aujourd'hui ces partenariats intelligents peuvent-ils mettre en œuvre ces fameuses stratégies et aller encore plus de l'avant avec, on le rappelle, notamment le fameux programme de développement durable à l'horizon 2030, mais aussi peut-être celui de l'Afrique pour 2063.
Pour nous, cette question est très importante parce que dans le passé, on jouait un rôle d'acteur passif qui était mu essentiellement par la recherche d'aide. Aujourd'hui, on est dans un rôle qui est beaucoup plus un rôle de partenaire proactif et qui vise à développer ces partenariats, que ce soit avec le Nord ou avec les pays émergents, sur la base de nos intérêts. Et pour qu'on développe ce partenariat sur la base de nos intérêts, il faut qu'on soit très clair sur ce que sont ces intérêts. Et ces intérêts doivent être liés à notre vision du développement qui, à travers la position commune africaine qui a guidé nos négociations dans le processus OZD, était focalisée sur le développement de capacités productives en vue d'enclencher l'industrialisation. Donc, c'est ce qui nous guide dans les partenariats. Et que ce soit avec la Chine, le Japon, l'Union européenne ou les États-Unis, nous veillons toujours à ce que ces partenariats-là aillent vers des sujets qui nous préoccupent, des sujets relatifs à l'énergie, des sujets relatifs au changement climatique, à l'adaptation, des sujets relatifs à la transformation agricole. Donc c'est ce que l'on entend par partenariat intelligent, c'est un partenariat où on joue un rôle proactif et pas un rôle passif d'attente de l'aide. Et vous savez, l'un des défis les plus importants du continent, ce sera la création d'emplois pour ces 300 millions de jeunes qui sont déjà avec nous et pour lesquels on devra créer des emplois dans les 30 prochaines années. Et pour créer ces emplois, ce ne sont pas les gouvernements qui vont créer des emplois. Ce sont les petites et moyennes entreprises, les entreprises plus grosses. Donc il faudra créer des conditions de développement du secteur privé qui permettent la création de ces emplois. Donc le partenariat là aussi avec le secteur privé africain et le secteur privé extérieur sera extrêmement important. Donc nous voyons plus l'aide comme un facteur catalytique qui va aider à créer les conditions de la transformation que comme un transfert de ressources pour aider dans l'éducation, la nutrition, etc.
Alors, est-ce que justement, pour le développement de toutes ces capacités, ça passe donc par des infrastructures, vous en avez parlé tout à l'heure, ça passe par des stratégies, mais ça passe aussi par un accès au marché. Est-ce que là également, donc, votre agence développe des plans pour qu'à travers la CNUSED, à travers, vous parliez des Chinois, vous parliez de la TICAD, vous parliez de l'Union européenne ou encore des États-Unis, il y ait un commerce beaucoup plus équilibré qui permet justement à l'Afrique, notamment, de tirer son épingle du jeu et de transformer les produits, les ressources naturelles, et non plus d'avoir également ce type de rapport qu'il y avait avant.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et en fait, la stratégie qu'on a par rapport au commerce, elle est en deux volets. Le premier volet, c'est que nous ne pensons pas que l'Afrique participera de manière plus importante au commerce mondial. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2%, 3%. L'Afrique ne participera pas au commerce mondial de manière beaucoup plus importante si elle n'arrive pas à augmenter son taux de commerce intra-africain. Et pour augmenter ce taux de commerce intra-africain, il faudra créer des marchés régionaux. Ce n'est pas du protectionnisme, mais on fera comme tous les autres ont fait. Il faudra donner une préférence aux marchés régionaux. Compte tenu du fait que nous allons doubler de population d'ici 2050, nous aurons naturellement, avec une croissance, même si elle est lente, mais qui existe, de la classe moyenne, nous aurons un marché. Et ce marché-là devra être la priorité fondamentale des gouvernements africains et des entités économiques régionales africaines. Nous devons profiter de ce marché avant que les autres en profitent. Et c'est ça la préférence régionale. Et en utilisant ces marchés, nous entrerons dans une logique d'apprentissage pour ensuite passer au commerce mondial. Donc ce n'est pas du tout utopique. Et la preuve, c'est que vous savez qu'il y a cette zone continentale de libre-échange qui est en train d'être construite progressivement et qui sera basé sur le libre-échange qui va exister dans les entités économiques régionales. Mais le message, c'est que nous devons d'abord compter sur nos marchés, avoir là un espace d'apprentissage et qui nous permette ensuite de passer à augmenter notre part dans le commerce mondial.
Alors, comparaison n'est pas raison, dit-on parfois. Souvent, l'Union africaine, notamment, s'est inspirée de l'intégration européenne qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a été assez exemplaire à travers le charbon et l'acier, la politique agricole commune et j'en passe. Or, aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une lassitude, voire une remise en cause de cette intégration européenne. Est-ce que l'Union africaine, notamment, et votre agence vont tirer les leçons de ce type d'écueil rencontré, notamment, par l'Union européenne ?
Absolument. Et c'est une très bonne question. Alors, la différence dans les systèmes de construction, l'intégration régionale en Europe et en Afrique, c'est qu'en Europe, vous aviez déjà des États relativement forts qui avaient atteint des niveaux de développement économique relativement élevés, qui ont attiré d'autres, notamment l'Espagne, le Portugal et puis tous les pays de l'Europe de l'Est, à rentrer dans le wagon pour les amener à des niveaux plus élevés de développement économique. Dans le cas de l'Afrique, mis à part Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, Algérie et deux ou trois autres, la plupart de nos pays sont des pays, un, enclavés, deux, qui ont des tailles relativement petites du point de vue économique, du point de vue de la population et des fois même du point de vue du territoire, avec des institutions faibles. Donc, les solutions dans le cadre africain à leurs problèmes nationaux sont plutôt des solutions de type régional. Et pour développer l'énergie en Afrique de l'Ouest, il vaut mieux avoir un projet régional qu'un projet national. Donc l'aimant de l'intégration régionale sur le plan économique est tout à fait essentiel quand on regarde le continent africain. Dans le continent européen, la fédération politique n'a pas suivi, si vous voulez, pour le moment, tout ce qui a été voulu. Et on sent une réticence des peuples à travers les opinions publiques, un questionnement de l'état actuel de l'Union européenne. Mais il ne faut pas oublier que l'Union européenne a été bâtie fondamentalement pour que l'Europe ne connaisse plus de guerre. Et l'Europe n'a plus connu de guerre. Et elle a même aidé à régler certaines guerres. Alors, à partir de ce moment-là, le bénéfice qui est tiré de l'intégration européenne, c'est ce que nous voyons, qu'il y ait des questionnements d'accord, mais les bénéfices sont extrêmement importants. Et l'Afrique a des leçons à apprendre, dans tous les sens du terme. Et une des leçons, c'est que, petit à petit, il est important d'avoir un leadership africain qui soit conscient que l'intégration régionale, ça vaut la peine et ça sert à régler des problèmes nationaux.
Voilà, et c'est avec Ibrahim Hassan Mayaki, l'ancien Premier ministre du Niger et secrétaire exécutif de l'Agence de coordination et de planification du NEPAD, que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine présenté et préparé cette semaine par Jérôme Longuet, avec la complicité de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les médias sociaux. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.